France Inter. Leur philo. Bienvenue dans Leur philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Benjamin Wagon à la console.
Leur philo. Patricia Martin sur France Inter.
Le silence est une richesse, le silence est un trésor. Le silence est ce qui permet le retour sur soi, la méditation, l'introspection, la prière pour ceux qui sont croyants. C'est véritablement un trésor. Et les silences dans la nature, découverts en quelque sorte à la fin du XVIIIe siècle, quand l'âme sensible se développe, eh bien, ces silences de la nature, dans la montagne, le silence de la montagne, le silence du désert, le silence de la campagne, le silence de la mer, etc. C'était ressenti d'une manière très différente selon les périodes. Pour qu'il y ait un bruit dans la campagne, la forêt, etc., le silence, je veux dire, doit être révélé par un bruit minuscule ou plusieurs bruits minuscules. Et ces bruits minuscules qui révèle le silence, en quelque sorte dans la campagne, souvent se réfère aussi à une mémoire d'enfance.
Ah,
les mêmes bruits minuscules qui avaient été ressentis dans l'enfance. Mais tout ça, c'est du 18e, 19e, pas du 17e.
C'était le précieux d'Alain Corbin, auteur d'une histoire du silence, où il envisage le silence depuis la Renaissance. Chaque époque a ses silences, chaque siècle ses bruits, le 21e siècle de ce point de vue, tient la rampe en matière sonore. C'est donc au silence que nous consacrons cette heure philo, en compagnie de Laurence Joseph, autrice d'un essai intitulé « Nos silences », publié chez Autrement, et Stéphanie Baudet, qui publie « À l'écoute du silence » aux éditions des Équateurs. Laurence Joseph, quand on parle du silence, en fait, on peut dire « les silences ». Le silence est pluriel, relatif, variable.
Complètement. Et j'ai cherché justement à essayer d'explorer les deux dimensions du silence en partant sur deux étymologies. La première, c'est celle qu'on connaît du silence, c'est siléo, qui appelle à la contemplation, au calme et peut-être à l'observation des minuscules métamorphoses qui ont lieu pendant qu'on se tait, justement. Et le deuxième, c'est silence, c'est celui de l'injonction, t'inquiète, tais-toi. Et justement, qui nous appelle à réfléchir au silence contraint.
Et alors, commençons par le silence le plus doux, le silence régénérateur. C'est celui que vous pratiquez, vous l'écrivez, donc je ne trahis pas de secret particulier.
Tout à fait.
Que vous pratiquez tous les matins, un quart d'heure de silence.
Tout à fait.
Avant de mettre au boulot.
Un quart d'heure de silence en arrivant dans mon cabinet. J'aime bien prendre ce moment-là en faisant couler mon café, qui du coup ne fait aucun bruit, justement, pendant ce quart d'heure de silence le matin. Et c'est vrai que c'est un moment où je vais essayer de ne pas penser au petit matin, ni à la journée qui vient. Et c'est souvent une journée chargée avec beaucoup de patients, ou les tracas.
Les patients, parce que vous êtes psychologue
clinicienne. Parce que je suis psychologue clinicienne.
Et
oui,
psychanalyste.
Et psychanalyste. Et les journées, parfois, sont chargées, chahutées, parfois. Donc, ce temps de silence, c'est un moment en fait que j'ai isolé en écrivant le livre. C'est-à-dire que je n'ai pas décidé d'observer un quart d'heure de silence tous les matins. Ce n'est pas une décision. Je crois que c'est quelque chose aussi, un moment du psychisme où on souhaite presque disparaître à soi-même avant de se laisser remplir par tout ce qui va nous arriver dans une journée.
En tout cas, c'est un silence choisi.
Oui, et heureux.
Stéphanie Baudet, alors vous aimez le silence, à ce point que je pense que vous n'aimez pas beaucoup le bruit. Vous le recherchez, est-ce qu'il y a un appel du silence ?
Oui, je crois qu'il y a un appel du silence, peut-être lié à nos sensibilités personnelles. Mmh. De mon côté, c'est depuis l'enfance en fait, que j'ai réalisé que le bruit était difficile, que le brouhaha me fatiguait énormément, que j'avais besoin de m'extraire, même dans des moments de communion familiale ou des moments de convivialité que j'aimais profondément. Mais je ressentais quand même une fatigue, donc le besoin de me mettre un petit peu en retrait. pour au contraire savourer davantage à mon retour avec plus de disponibilité, plus de joie. C'était décuplé finalement par ces temps de silence que je m'accordais. Je me souviens très bien de Noël en famille où j'allais me cacher dans
l'escalier de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a ? Les cadeaux lui pèsent pas ?
Simplement, je me souviens de ma tante qui, quand je revenais délicatement, me disait « Mais tu es vraiment trop sensible. » Et ce trop sensible, en fait, c'est vrai que c'est à la fois parfois un fardeau, mais c'est aussi un cadeau sur d'autres...
Est-ce que cette famille, parce que vous parlez à un moment donné d'un grand-père qui était un grand taiseux, qui allait à la pêche, en général, les gens qui vont à la pêche, effectivement, sont pas des gens très bavards, en tout cas pendant qu'ils pêchent. Est-ce que c'est lui qui a pu vous transmettre cette envie de silence, ce désir ?
Alors, je me suis posé la question, mais probablement qu'il y a dans nos gènes, comme ça, quelque chose qui s'hérite, on hérite de ça. Mais c'est vrai que mon grand-père, ce temps de silence était précieux, notamment parce que j'avais une grand-mère très volubile, qui prenait beaucoup de place, et c'était assez étonnant, ces deux caractères très différents, et ce petit moment de pêche avec mon grand-père, j'en ai gardé un souvenir merveilleux.
Alors, l'une et l'autre, et c'est ça qui est tout à fait vraiment enrichissant et charmant dans vos livres, c'est que d'abord, ils sont très personnels, et que vous les agrémentez, en quelque sorte, de beaucoup d'autres, vous nourrissez d'autres plumes, et vous citez notamment Marguerite Duras qui écrit « Le silence, c'est ce sans quoi on ne fait rien, ce sans quoi on ne voit plus rien ». C'est beau ça.
Oui, mais précisément, je crois qu'elle parle aussi de ce silence. C'était comme rentrer dans la mer quand elle parle de ce silence de la maison de Nofle. Et c'est très beau parce qu'en fait, elle aimait encore mieux les siens. Avec ce temps de retrait,
quand ils étaient partis.
Voilà. Non, mais aussi, elle préparait la soupe, elle pensait
les
accueillir.
Elle pensait à eux.
C'était déjà un moment d'écriture. Mmh. Et je ressens vraiment la même chose où on se dit, tiens, c'est pas qu'on aime mieux les siens à distance, c'est qu'en fait, le retrait permet peut-être des temps de qualité plus que de quantité.
Laurent-Joseph, c'est une source d'inspiration hein, pour beaucoup d'écrivains, hein, pour beaucoup d'intellectuels que le silence.
Bien sûr, le silence, c'est un moment aussi où les mots vont se développer en nous. C'est un moment où les mots vont venir, c'est une surface en fait. Et quand je vous écoutais dire cette citation de Marguerite Duras, quand elle dit « on voit plus rien », on voit bien que l'espace du silence, c'est aussi un espace de sensorialité. C'est un moment où notre sensorialité peut s'aiguiser, peut se travailler, là où quand on est dans la parole, le reste du temps, on va être très collé au verbe et aux mots. Et on voit que dans le temps de silence, les paysages se mettent à vibrer différemment, les scènes qu'on a vécues aussi. Et donc, du coup, on va peut-être avoir envie de les écrire.
Nous sommes en terre inconnue avec Christian Bobin. C'était sur France Inter, au micro de Laura Adler.
Je suis relié par ce retrait. Je suis relié par le silence des nuits où je peux écrire sur une longue table de chêne. Ou sur une toute petite table dans une autre pièce, une toute petite table étroite, avec toute vérolée par des taches d'encre. Je suis relié par ce silence, par cette solitude relative, et par la proximité des livres sommeillants faussement à mes côtés, en vérité éveillés, les livres des auteurs que j'aime. Je pense que quand vous faites un pas de côté, Vous ne quittez pas le monde, vous commencez enfin à le regarder dans les yeux. Quand vous êtes pressé contre lui, vous ne le voyez pas, vous ne vous voyez plus vous-même, vous ne savez plus rien, vous êtes comme affolé, pressé de tous côtés d'injonctions qui sont dites par personne. Vous vous reculez un tout petit peu, il n'est pas nécessaire, indispensable d'être dans une forêt pour cela. Vous vous reculez un tout petit peu et vous commencez à faire entrer en vous assez d'absence pour mesurer ce que c'est que la vraie présence, que la pure présence, la présence juste, et donc ce que c'est que le monde.
Bobin, il parle comme il écrit avec autant de talent. Le silence, c'est ce qui vous relie au monde, c'est ce qui vous relie à vous-même. C'est un silence nourricier, c'est un silence intérieur, une école, et ça je vous cite Stéphanie Baudet, une école de recueillement, de contentement et d'amour.
Oui, je crois que les mots de Christian Bobin résument vraiment tout. Voilà, j'adhère complètement parce que il parle de cette disponibilité, de cette ouverture en fait que le retrait, que le silence permet, et de cette façon qu'on a de mieux accueillir le monde. Je crois qu'une grande partie de la violence de notre monde vient parfois du fait qu'on se fracasse un peu les uns contre les autres dans ce bruit, dans ce brouhaha permanent, ces injonctions variées qui nous arrivent dessus et ce tourbillon de pensée dans lequel on est pris du matin au soir. Et je crois que par moments pouvoir, je pense en extraire. se mettre à côté. C'est pas du tout sortir du monde et vivre égoïstement, mais c'est au contraire pouvoir mieux l'embrasser à son retour et mieux le comprendre. Et je crois qu'on est davantage bienveillant, ouvert et mieux disposé envers les autres quand on prend ce temps de retrait.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Laurent Joseph ? Vous qui, aussi par votre métier, vous prenez un peu le pouls d'une société par le biais de vos patients. Est-ce que c'est ce qui ressort aussi?
Oui, ce que j'entends, le trait d'union, je pense qu'on a écouté, il faut savoir, dans le studio, le texte de Bobin avec un silence quasiment religieux. Et le trait d'union, je pense, entre nos deux textes et cette lecture de Christian Bobin, c'est que dans ce passage, on entend davantage un appel au battement qu'un appel à la fusion. Et c'est un peu l'écho à ce que vous êtes en train de dire et ce que j'entends en tout cas dans les histoires cliniques, au-delà même du côté contemporain de ces histoires cliniques, c'est que la fusion à un moment va mettre en danger les sujets entre eux, que ça soit une fusion entre deux êtres ou une fusion entre un sujet qui va devenir de plus en plus brûlant pour nous et finalement un peu incandescent pour la psyché. Ce battement auquel Bobin nous invite et auquel en fait le silence nous invite, parce que c'est un battement avec les mots, c'est un battement avec la pensée, et que finalement ces temps de battement, c'est des temps de réflexion, de recul. C'est ce qu'il dit au début de l'extrait. Si vous êtes trop collé, vous voyez rien. Bah, le silence, on se recule et ça fait ce battement aussi psychique, intellectuel et du corps aussi.
Voilà. Qu'est-ce que je suis contente de vous entendre dire ça, parce que sur la fusion, parce qu'on entend souvent maintenant des gens dire « Ah, moi je suis fusionnelle avec ma fille » ou « Je suis fusionnelle avec ma femme » ou je sais pas quoi, enfin bon. Mais au secours quoi, surtout pas être fusionnelle, non ?
Ça brûle beaucoup après.
C'est ça, donc silence, silence. Silence, ça pousse d'ailleurs, c'était aussi le titre d'une émission de Nature. Il faut, alors là, on dit plein de bien du silence, mais avec l'obscurité et la solitude, et là, vous le dites bien, Laurent Joseph, enfin, vous reprenez des propos de Freud, c'est aussi le silence ce qui provoque l'angoisse infantile.
Oui, c'est ce qu'il dit à la fin de l'inquiétante étrangeté, ces dernières lignes où il dit que le silence fait partie des facteurs d'angoisse pour les enfants. Mais à ce moment-là, c'est la trace de la séparation avec la mère, en fait. Donc le silence, c'est ne plus entendre sa mère, les mots, la berceuse, puis sa respiration. Donc c'est aussi un exercice de séparation. C'est angoissant, mais c'est une angoisse qui après peut être vertueuse.
Et qui est nécessaire.
Et qui est nécessaire. C'est une angoisse
antifusionnelle.
Antifusionnelle.
Voilà. À un moment donné, par petites touches.
Par rapport à ce que vous dites, le silence qui peut être vraiment angoissant, c'est le silence des fins de vie. Et c'est un passage aussi que j'ai écrit en hommage à ma grand-mère, c'est-à-dire ces moments où, si on ne l'appelait pas, elle passait toute la journée toute seule. Et comment ça s'organise, une journée en silence, comment on la peuple. Et c'est ce silence-là aussi auquel il faut faire attention.
Et c'est aussi le silence, parce qu'encore une fois, il y a 36 000 silences, c'est aussi le silence d'une maison quand les habitants ou l'habitant n'y est plus, est parti ailleurs ou est mort. Ça, c'est poignant.
Ça, c'est le moment le plus troublant que j'ai essayé, comme j'ai pu, de décrire dans le livre, ce moment où je reviens chez ma grand-mère et qui vient d'être enterrée. Et donc, on sent encore sa présence, on la devine encore dans toutes ses habitudes. C'est quasiment un réflexe cérébral. On sait, on pense qu'immédiatement, elle va apparaître. Et c'est les premiers pas, même pas du deuil, je pense, mais c'est les premiers pas de la familiarité avec l'absence, qui commence finalement par le silence. Il n'y a plus les pas, il n'y a plus la porte. Et c'est un moment, le silence, ça annonce aussi cette disparition, voilà, progressive, à laquelle nous, après, on va devoir s'habituer.
La disparition, alors la disparition du sujet vivant, on pense au journal à ce que Virginia Woolf écrit dans son journal. Stéphanie Baudet, vous qui vous épanouissez dans le silence, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quand Georges Perec, dans Un homme qui dort, écrit « Maintenant tu vis dans l'inépuisable, chaque journée est faite de silence et de bruit, de lumière et de noir, d'épaisseur, d'attente, de frissons ». Là, on est quand même dans une zone limite de l'expérience humaine.
Un peu plus, oui, c'est assez obscur. Alors après, moi, je crois quand même que pour les gens qui aiment le silence, en tout cas le silence habité, celui que je célèbre dans ce livre, c'est le silence vivant, le doux bruissement du monde, en fait, le murmure du monde, ce chant du monde dont Juno parlait, et qui est un grand moment de ressourcement. Mais je crois que quand on se sent relié au reste de la création, finalement, on se sent jamais seul ni isolé. Je pense que c'est pas qu'il faut surestimer les relations humaines. C'est pas que je dis qu'il faut les évacuer, mais je crois qu'on surestime parfois les relations avec nos semblables au détriment du reste en fait de la création. Et quand on commence à se rendre disponible, on s'aperçoit qu'on est très entouré. Par les êtres non humains, par les plantes, par les oiseaux, par...
Par les petites souris, vous allez nous raconter ça, souris. Parce que c'est assez drôle, oui.
Tout à fait. Et donc, en fait, voilà, dans cette solitude choisie, c'est pour ça que je crois que les ermites aussi ont une facilité, même s'ils ne bénéficient pas de la communauté, du caractère, par exemple, du cénobitique, du monastère ou autre, pour soutenir leur foi, ont le soutien de tout le reste, en fait.
Et pourtant, vous n'êtes pas une ermite, vous ne voudriez pas être ermite, enfin, c'est ce que j'ai compris.
Je crois que j'apprécie les temps, je crois que je suis quand même un peu une ermite au quotidien, je vis un peu, même si je vis en couple, dans une forme de solitude
à
deux.
Est-ce que votre mari est bavard,
Oui, il est très bavard, très extraverti, donc c'était aussi une belle complémentarité pour le coup dans le couple.
Vous allez nous raconter vos histoires encore de silence, et notamment celle d'une échappée très particulière. Votre livre s'intitule « À l'écoute du silence » et le vôtre, Laurence Joseph, a pour titre « Nos silences ». Et vous êtes toutes les deux, faut-il le dire à nouveau, les invités de l'heure philo.
L'écran floconne. Il n'y a plus personne. Le silence. Y a plus d'hommes dans ton cabas, au marché les salades dans le cœur batavia. Silence mes anges, se réconcilie. Si on se taisait. Silence, je pense. Et puis non. Ce matin, croissant mal luné, m'est tombé dans le café. Quel programme, quelle performance. Un sitcom pour une angine de poitrine. Si on se taisait. Si on se taisait, si on se taisait, si on se taisait, et puis non, et puis non, et puis non. Et puis non, silence mes anges, se réconcilier. Je suis pas devin, je suis pas divine, mais je rêve derrière mes barreaux d'une nouvelle grille. Silence, mes anges. Silence, mes anges. Se réconcilie, amis étoilés. Si on se taisait. Se taisait. Silence, je pense. Et puis non. Et puis non. Et puis non. L'écran floconne. Se taisait.
Mon compatriote, le philosophe Alain, fait remarquer que dans les classes, notamment, le silence est contagieux comme le rire. Si l'on on creuse cette expression, ça me paraît aller assez loin. Alors aujourd'hui, on craint le silence, parce que le silence est lié à l'ennui. Pensez à la minute de silence. La minute de silence qui est une désacralisation, une sécularisation d'un rituel, en fait. Hein. Pensez au stade dans lequel on fait une minute de silence. D'abord, on la respecte plus ou moins bien. Et on sent, si vous voulez vraiment ressentir ce moment, une sorte d'impatience. Moi-même, je me surprends à ressentir une certaine impatience au cours de la minute de silence.
Alors, si même Alain Corbin devient impatient, voyons-nous. Vous êtes d'accord sur le fait que le silence, ça peut être quelque chose de contagieux? Je vous pose la question à toutes les deux.
En tout cas, moi, ce que je trouve très beau, ce sont les silences partagés. En fait, finalement, partager un silence avec des amis, j'ai eu cette chance pendant qu'on faisait un moment d'affût pour essayer d'apercevoir un loup. Et je me souviens m'être dit, mais c'est merveilleux de partager ce silence, dire que d'être ensemble, et plutôt que de parler tout le long du sentier, de se taire ensemble. J'ai trouvé ça très beau, d'arriver en rampant sur les bras pour accéder au petit col et essayer de se faire discret. Et ça, voilà, tous ensemble, c'était assez merveilleux.
Je suis d'accord dans cette idée, oui, avec cette idée que le silence peut être contagieux à partir du moment où il va nous relier. C'est-à-dire qu'il peut nous relier à la fois dans une contemplation, comme partir à l'affût d'un loup. Il peut nous relier aussi dans la découverte, dans un moment d'intimité. Mais il peut nous relier aussi dans l'effroi. Où tout d'un coup, on va tous se mettre à se taire parce que on est sidéré par une situation, on est médusé par quelque chose qui est en train de se passer. D'ailleurs, la méduse,
elle nous fige. Ou par une horreur, le cri.
Voilà. Le cri aussi, et par rapport à l'extrait au début de l'émission, on entend encore davantage le cri. On entend encore davantage le silence et le cri parce qu'ils se répondent en fait et ils marquent aussi des explosions sensorielles et des explosions aussi psychiques.
Mais c'est pas une tendance que certains ont, moi par exemple, peu importe, on s'en fiche, mais cette espèce de gêne devant un silence qui dure. Donc on veut, je sais pas, remplir l'espace, la relation, je ne sais pas.
Oui, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que en latin, les morts, ça s'appelait aussi les silentes. Donc il y a quelque chose quand même quand on dit souvent un silence de mort, c'est parce que avant les deux mots étaient confondus en fait, et que le fait que quelqu'un ne parlait pas, c'était d'abord le signe qu'il était mort. Donc il y a cette trace aussi de la mort à l'intérieur des silences. Et donc, on a envie de secouer l'autre. Ça va, tu vas bien, t'es là. Et dans le livre, il y a cette pièce de Nathalie Sarraute, justement, le silence, où Nathalie tous les personnages sont prêts à
très
tout
grand écrivain.
Pour que ça se réveille un peu, quoi, sortent du
parce
silence.
Parce que ils sont face à un être qui est mutique.
Exactement. Et ça, c'est l'ombre de la mort.
Ah, et c'est étymologiquement, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Alors, Stéphanie Baudet, je voudrais quand même que vous nous racontiez ce merveilleux ermitage où vous allez, en plus, à une saison, enfin, c'était quoi? C'est l'automne, l'hiver? C'est même l'hiver?
Alors, non, c'était le tout début, fin de l'hiver, début du printemps.
Fin de l'hiver, début du printemps.
Encore
sacrément
encore
froid.
Voilà, c'est ça.
Alors, vous arrivez, route du paradis, donc.
Oui, alors, route du paradis, c'est un sentier en réalité.
D'accord.
une
cabane.
C'est ça.
Il n'y a pas beaucoup de confort dans cette cabane.
Alors, non, il y a une demi-heure de marche d'accès. Et ensuite, c'est vraiment une cabane avec. Voilà, c'était l'idée de renouer vraiment avec cette vie simple, en fait, de s'ensauvager, de s'ensilencer, en quelque sorte. Et pour retrouver ce goût de la simplicité que j'aime, faire son bois, aller chercher son petit bois dans la montagne, faire son feu tous les matins. Il y a une forme de méditation aussi dans ce retour aux gestes ancestraux, en fait. Et on se rend compte que le luxe, souvent, enfin, encore plus aujourd'hui, est souvent relié à des choses très simples. Et le silence, le temps, sculpter son temps à sa guise, avoir de l'espace, ça en fait partie. Aujourd'hui, ce sont des choses. Pour moi, c'est le luxe suprême.
Sauf qu'à un moment donné, il y a quand même des souris qui font un peu de raffut et qui dérangent ce silence.
Oui, alors au début, j'étais ravie d'avoir la compagnie de petites souris parce que j'adore les animaux de toutes sortes et je me réjouissais d'avoir. En fait, c'était des rats des champs. J'ai appris par la suite. J'ai un petit peu confondu les deux. Et en tout cas, en fait, la population s'est démultipliée et je me suis aperçue en fait que cette vie silencieuse ne l'était pas du tout. En tout cas, les nuits étaient très orchestrées, très. Ça faisait un vacarme incroyable.
Mais de toute façon, le silence absolu, alors en ville, parle même pas, mais même à la campagne, le silence absolu n'existe pas. Le silence est toujours quelque chose de très vivant.
Oui, c'est ça, mais je pense que quand on parle du silence de la campagne, finalement, ou de la montagne, c'est ce silence où on n'a plus le bruit humain. Voilà, le bruit anthropique, en quelque sorte. Moi, je pense que c'est que quand les hommes se taisent, qu'est-ce qui reste? Et en fait, c'est du plein. C'est des choses plus ou moins fragiles, plus ou moins subtiles. Dans la jungle, ça peut être quelque chose de dévorant, de
mais les campagnes, par exemple, les campagnes ont quand même toujours été très bruyantes par les agriculteurs, enfin les paysans qui faisaient du bruit avec leur...
Alors, elles se sont mécanisées quand même.
Elles se sont mécanisées, mais avant même ça, ils faisaient quand même du bruit. Même, à un moment donné, j'ai vu que Sénèque se plaignait du bruit qu'il y avait autour de lui, parce qu'il y avait je sais pas quoi, c'était, attendez, il faut que je retrouve parce que j'ai noté ça, parce que je trouve ça très drôle. Il se plaignait de la respiration sifflante des sportifs, alors ça, vous qui avez fait beaucoup d'escalade, il l'aurait pas aimé, plus les cris du pâtissier, du charcutier, du confiseur et tous les brancanteurs de taverne. Sénèque, vous imaginez, alors que dirait-il dans nos villes aujourd'hui?
Je pense qu'il s'évanouirait. Je pense qu'il s'évanouirait, qu'il pourrait pas supporter. Mais c'est vrai, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous dites. Et c'est vrai que quand on vous écoute, on vous imagine, voilà, faire le bois le matin, le feu. Et c'est une temporalité et un silence qui, là, se tressent ensemble. Et c'est très beau.
C'est le silence du chant de la terre, en fait.
Oui, c'est ça, c'est revenir à la source de nos vies, à l'essentiel, en fait. Et puis, il y a ce lien très, très fort qu'il y a justement avec la présence animale. Au seuil de la porte, on entend la chouette ululer, on entend le bruit du torrent, enfin, le chant du torrent. Puis après, une nuit, la neige est mise à tomber. On est tous, je crois qu'on a tous cette fascination pour ce silence ouaté que nous procure la neige qui tombe fraîchement. Voilà, c'est d'ailleurs que je lisais cet après-midi un texte de Colette qui en parle merveilleusement. Et elle disait finalement, j'essaie sans cesse de le décrire, mais je trouve pas les mots. Donc elle parle de ce chuchotement de la neige qui tombe sur un lit de feuilles mortes. Et on sent, voilà, que tout s'apaise, que les bruits disparaissent. Et on se sent, je crois qu'on se sent, on se sent plus vivant, en fait, quand on a accès à ce silence-là, et on approche une forme même de sacré, et on rejoint un peu le mystère de la vie et de notre être au monde.
Mais vous parliez tout à l'heure du temps. Le travail du temps, il se fait, je dirais, de façon plus harmonieuse dans le silence, Laurent-Joseph ?
Le travail du temps, c'est-à-dire de la temporalité, oui, je pense, parce qu'il nous rend beaucoup plus observateurs. Je pense qu'il nous rend aussi beaucoup plus conscients de notre corps. Quand on vous écoute, là, le bruit de la neige, le bruit de la nature, c'est qu'on se rend compte à quel point, la majorité de la journée, on est coupé de notre sensorialité. Parce qu'on est dans la parole, on est dans l'efficacité. Et on retrouve justement dans cette attention au silence, une attention aux vibrations intérieures. Et c'est dans ces moments-là, parce que le silence s'articule avec le langage, c'est dans ces moments-là aussi que certains de nos textes intérieurs, de nos visions intérieures, on va pouvoir se relier avec elles de manière plus sacrée ou plus intime. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va pouvoir s'aiguiser entre le silence, le corps et le texte.
Mais dans une chambre du silence, parce qu'il y a eu une expérience qui a été faite, là, on devient dingue quand même. Dans ce silence absolu-là.
Il était très déçu, parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de silence absolu et qu'il entendait les bruits de son système nerveux.
Mais ce qu'il faut, on
entend son corps, en fait. C'est pour ça qu'à un moment, avec le silence, on cogne sur le corps. Mais ce qui est très intéressant, c'est que John Cage, donc celui qui a lancé cette expérience, c'était un grand admirateur du philosophe Thoreau, donc qui était lui, justement, un grand admirateur de la nature et qui voulait qu'on revienne un peu vraiment des expériences similaires aux vôtres. C'est vraiment ce moment où étudier le silence, ça se fait aussi dans un battement à ressentir la nature et se rappeler que c'est elle aussi qu'on doit écouter.
Est-ce que vous avez vécu, Stéphanie Baudet, cette expérience d'ermite, enfin, pas d'ermite, mais enfin, en tout cas...
Temps de retraite,
voilà.
On va dire.
Est-ce que vous avez vécu ça comme une expérience que vous alliez tenter?
Non, pas vraiment. Vraiment, c'est simplement un besoin à répondre à un appel. C'est vraiment ça, parce que ces temps de silence, en réalité, je les ai souvent vécus. Je suis une grimpeuse, alpiniste, et finalement, ces moments de silence intérieur, en tout cas pendant l'escalade, je les vis profondément, notamment au contact de la pierre, qui m'apporte avec peut-être ce lien à une temporalité qui n'est pas du tout la nôtre, qui nous relie à quelque chose de beaucoup plus ancien, une paix, un apaisement immédiat. Voilà, du moment que je suis en train de grimper, j'ai l'impression que tous mes soucis, un peu comme au fil de l'eau, s'évanouissent comme par magie, et que je suis intensément là.
Mais la pierre est muette ?
Alors pour moi, la pierre est vivante. C'est un peu paradoxal parce que on a l'impression parfois que le minéral, c'est vraiment l'absence de vie, la pierre tombale. Et alors pour moi, au contraire, elle recèle des jardins suspendus, elle se creuse de rides émouvantes au fil du temps, un temps qui n'est pas évidemment le nôtre, mais qui s'étire sur des millénaires. Elle change. On voit bien ces récifs aussi qui sont au contact du vent, de l'eau, du soleil, qui change en fait.
Je disais tout à l'heure que vous vous nourrissiez l'une et l'autre beaucoup de différents écrivains, Laurence Joseph, au nombre des auteurs que vous citez et que le silence a inspiré. Il y a Laurent Mauvignier, il se trouve que c'est vraiment un auteur qu'on est nombreux à aimer, et qui dans Histoire de la nuit montre bien que le silence en fait active, intensifie en tout cas l'activité mentale. Et c'est donc l'histoire d'une femme, elle s'appelle Christine, elle est peintre, et voilà ce qu'écrit Mauvignier. Depuis 40 ans, elle rabote sa langue pour ouvrir sa vision, pour forcer son regard à s'approfondir, comme on cherche à voir dans la nuit, à se faire à l'obscurité.
C'est une citation qui est magnifique. Tout ce livre de Laurent Mauvignier, Histoire de la nuit, il est extrêmement puissant. Je trouve que Laurent Mauvignier, c'est un des grands écrivains du silence, qui ne se dit peut-être pas comme ça, mais la présence du silence est toujours très très forte dans ses livres. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage de Christine, qui porte vraiment la vision, en fait, qui voit les choses qui s'ilettent, c'est-à-dire qui sont en train de se métamorphoser. Avant, on disait d'un bourgeon qu'il s'ilette, d'où l'émission Silence, ça pousse. En fait, c'est ça l'idée de Silence, ça pousse, c'est qu'on voit rien, mais c'est en train de pousser. Et donc, d'un côté, dans Histoire de la nuit, il y a ce personnage de Christine, et puis de l'autre côté, il y a l'effroi de l'héroïne qui est en train de voir sa vie en fait se briser au fil des pages. Et donc j'ai trouvé que voilà, cette rencontre des deux silences dans Histoire de la nuit, je trouve ça magnifique.
Vous le disiez tout à l'heure, le silence, c'est la porte d'entrée du mystère. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler, ça c'est l'Ecclésiaste. Eh bien écoutons sœur Emmanuel, pas celle qu'on connaît, une autre, une religieuse donc. C'était dans Le Jour du Seigneur en 2018 sur France 2.
Le silence, c'est un aspect essentiel de notre vie parce que c'est ce qui permet en fait à notre vie intérieure de se développer. Le silence, c'est le lieu idéal pour une rencontre avec le Seigneur parce que le Seigneur vient nous rencontrer dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes. C'est aussi la possibilité pour nous de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Le silence permet à la parole de résonner en nous et de porter du fruit en nous, au fond de nous habiter. Notre vie fraternelle est une dimension très très importante de notre vie monastique. Il n'y a pas de vie fraternelle authentique sans silence, sans écoute les unes des autres. Et là aussi, ça s'apprend. Si on veut vivre un vrai silence, c'est un silence qui est plein de Dieu, qui est rempli d'amour, qui est rempli de vie. C'est un silence qui donne la vie. Ce n'est pas un silence qui replie sur soi. C'est un silence qui est tourné vers le bien et vers la vie.
Un silence qui donne la vie. Alors il se trouve, Laurence Joseph et Stéphanie Baudet, que toutes les deux vous évoquez les chartreux. D'ailleurs, Stéphanie Baudet, l'escalade, après tout, là aussi vous dites que grimper, c'est une méditation en mouvement, donc on peut aussi se dire que ça se rapporte à ça. Laurent-Joseph, de leur silence aux chartreux, naît quelque chose qui les attire à plus de silence.
Oui, j'ai trouvé que ce passage des chartreux, il est captivant, en fait. Ça devient une addiction au silence. Hein. Alors, c'est pas le silence dépressif de l'homme qui dort de Pérec, mais on sent que c'est un appel de plus en plus fort au silence. Et il faut relier ça aussi avec le texte de saint Augustin dans sa vision d'Ostie, en fait, où il nous demande de faire silence, le tumulte de la chair, le silence des images, tout ce qui peut nous parasiter. Je trouve que c'est un très, très beau passage. Mmh. Et en fait, il demande ce silence pour qu'on soit, c'est lui qui l'écrit, hein, en tension vers le Verbe divin. Donc il y a cette idée que ce silence va permettre cette tension vers le Verbe divin, et je pense que c'est ce qui se passe en fait dans l'esprit des chartreux. C'est que ce qui pour nous semble silencieux, pour eux c'est une puissance sonore vers le langage, et ils en veulent plus en fait.
Stéphanie Baudet, vous vous dites que les chartreux sont des veilleurs dans le grand silence de la nuit. Il faut dire que la première fois qu'ils se lèvent, il est quoi? Il est minuit, hein, c'est ça?
Oui, je crois, c'est ça. En fait, leur nuit est scandée par différents offices. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'ils sont dans une temporalité différente, en fait, et puis qui est toujours la même depuis très très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Ça, c'est assez fascinant dans notre monde moderne de se dire qu'il y a encore des grands veilleurs comme ça dans le silence de la nuit. Mmh. Et ensuite, évidemment, on peut, si on n'est pas croyant au sens traditionnel du terme, on peut ressentir ce même besoin de silence et de se relier au mystère. Ça me faisait penser à ces vers de Rimbaud, en train de marcher, je crois, dans le poème Sensation. Et il dit « Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme ». Voilà, et je trouve qu'en fait, dans la marche, dans les activités manuelles, pour un artiste, dans le moment où il est en train de saisir, peut-être sur sa toile, qui tente de décrire ce qu'il est en train de voir, de retranscrire, le musicien pareil, la vie peut-être est une partition qui ne se déploie qu'avec des temps de silence.
Le silence qui ouvre à la vie spirituelle, et Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathoustra, qui écrit « Les paroles les plus silencieuses apportent la tempête, les pensées portées sur des pattes de colombe » mène le monde. C'est beau.
Oui, c'est beau.
Ça mérite une minute de silence, non?
Tout à fait.
Non, mais c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Il faut, vous parliez tout à l'heure de Saint-Augustin, Laurence Joseph, et donc il faut un silence absolu, en fait, pour bien écouter une parole. Il se trouve que dans votre métier, vous taisez plus que vous ne parlez, je pense. Et les silences sont parlants aussi. Les silences signifient quelque chose.
Oui, complètement.
Quand un patient vient vous voir.
Il faut là faire, la clinicienne en moi veut faire la différence entre quand j'écoute des enfants et des adolescents, où je me tais un peu, mais pas trop, et les moments où je vais écouter des patients adultes, en fait. Un enfant et un adolescent, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être très angoissant si je dis rien ou si je manifeste pas une présence, un intérêt, parce que ça va les soutenir aussi dans des temps de métamorphose où parfois les mots leur manquent, la représentation de ce qui va advenir leur manque. Donc là, je parle. Mais pour certains de ces adolescents ou de ces enfants qui ont eu des rencontres traumatiques, là, la question de ma parole, elle va être différente, parce que dans mon écoute, je vais devoir faire attention à ne pas poser des questions qui pourraient les brusquer. Cette écoute aussi, elle doit être empreinte de pudeur, de tact. Donc, même dans des consultations avec des enfants où je vais être assez présente, en fonction de leur récit, moi, je dois aussi ajuster mon silence, qui est toujours témoignage de ma présence, hein, mais je dois aussi ajuster pour ne pas rejouer encore une effraction traumatique. Et avec les patients adultes, qui vont être là dans des consultations plus classiques, je vais parler, je ne suis pas une grande silencieuse en séance, hein. Je suis quand même assez présente, je crois, avec mes patients, mais je vais les laisser en tout cas dérouler un fil pour qu'ils puissent s'entendre, pour qu'ils puissent entendre ce qu'ils sont en train de dire et pas marcher sur leurs mots. Sinon, c'est une conversation, on prend un café. Et c'est sympathique aussi, mais là, c'est plus le cadre de mon exercice.
Mais est-ce qu'il arrive qu'un patient ne puisse pas ouvrir la bouche pendant une séance?
Alors, une séance entière, ça peut arriver pour certains patients d'avoir vraiment du mal à démarrer. Mais parfois, quand on va justement aller dans des régions traumatiques ou des régions sans être forcément traumatiques, mais extrêmement douloureuses, des grands chagrins, des grandes brisures de l'existence, là, c'est difficile. C'est difficile. Et là, c'est à chaque clinicien aussi de ressentir, parce qu'il y a une question aussi de notre empreinte à chacun, à chaque clinicien, comment on va vouloir aussi se positionner par rapport à son silence, comment on va vouloir s'en approcher. Ça dépend. En fait, c'est assez intime, en fait, ce moment-là, où comment les deux, on peut s'accorder aussi dans notre silence avec le patient. Et c'est pas parce qu'on n'a rien dit qu'il s'est rien passé du tout, au contraire.
Simone Veil, elle revient sur son expérience de déporté, qui vaut d'ailleurs pour tous les déportés.
De toute façon, ce qu'on a vécu est tellement hors du monde, différent qu'on ne peut pas le faire comprendre, et que nous sommes à la fois obligé d'en parler, c'est une nécessité, c'est une promesse qu'on a faite, c'est un engagement, et en même temps, chaque fois, frappé de ce que c'est une expérience incommunicable. Et que quand les gens nous en parlent, posent des questions, ils sont consciemment, sans le vouloir, à côté de la plaque. Et que quand même, quand ils croient comprendre, ils comprennent différemment. Parce qu'on pense à la souffrance physique, on pense à tout ce que nous avons pu vivre. Et que nous, ce n'est pas à ça qu'on pense. Au fond, la faim ou la soif qu'on a vécue ou le travail très dur. Je dirais que pour moi, dans les choses physiques, ce qui me... Si j'essaye non pas de penser maintenant, mais d'essayer de me souvenir de l'époque, c'est le manque de sommeil. Je me souviens, les derniers mois de Belzen, je n'ai pas dormi pratiquement parce que je n'avais pas d'endroit pour dormir. Je rentrais du travail et je rentrais dans un bloc où il n'y avait même pas un endroit pour s'asseoir. Alors on restait debout, on ne dormait plus. J'avais l'impression d'être folle de ne pas dormir. Une espèce d'angoisse permanente, d'espèce de situation où je dormais debout. Une sorte de somnambule, puis d'humiliation atroce de la maladie. Et je crois que c'est ça qui est, au fond, ce qui était le plus terrible, c'est cette humiliation permanente, ce sentiment de déchéance et d'essayer de lutter contre. Et ça, c'est incommunicable.
Incommunicable, indicible. Et les déportés ont pratiquement tout le temps, toujours, été réduits au silence, en tout cas, à leur retour. Et on pense, Laurence Joseph, vous racontez aussi, là, c'est vraiment le silence des limites, vous racontez un homme dans Shoah de Claude Lanzmann qui essaie de parler.
Oui, c'est une scène, mais déjà quand on écoute là Simone Veil, on est déplacé en fait là. Quand on l'écoute, elle nous fait bouger en fait. Hein. Elle nous déplace. Et justement, cette scène dans Shoah de Claude Lanzmann, je crois que c'est Yann Karski, ce moment en fait où il s'installe devant la caméra et il dit now, maintenant, pour essayer de faire revivre les choses en fait. Et c'est un point de bascule tel qu'il est obligé de passer hors champ parce qu'il ne peut pas en fait se resynchroniser avec cette expérience. Et c'est bien là qu'on voit que les mots nous transportent avec une puissance, même si c'est loin, même si c'est avant. Et c'est très, très important ce que vous dites par rapport à les déportés, même si aujourd'hui ça nous semble incroyable en 2025, mais ils ont été passés sous silence finalement. Et il y a une œuvre à laquelle je suis très sensible, c'est celle de Charlotte Delbo, où justement elle a écrit en 45, ça a été publié en 65. Et elle raconte comment à l'appel dans les camps à Auschwitz, elle se récitait sans cesse le texte du Misanthrope qu'elle avait réussi à acheter comme ça rapidement. Et elle tenait, en fait, elle a tenu parce qu'elle se récitait sans cesse ce texte par cœur. Mmh. Et il a fallu quand même 20 ans pour qu'elle soit publiée.
Stéphanie Baudet, vous voulez ajouter quelque chose?
Ça me faisait aussi penser à ce texte moi, qui me touche extrêmement, qui est Une vie bouleversée d'Etil Soum, où cette femme, en fait, grâce, je pense, à sa foi, portée par sa foi et son amour des autres, finalement, développe une énergie colossale dans les camps, en se mettant au service de l'autre, ce qui paraît complètement fou. Et elle arrive quand même à apprécier, un peu comme Rosa Luxembourg, emprisonnée, les nuages qui passent, la moindre petite merveille, elle y est encore sensible. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, dans les lettres qui sont parvenues, voilà, il y a encore ça qui... En fait, elle a l'impression de tout contenir en elle. Elle est les forêts, elle est les fleuves, elle est les montagnes. Mmh. Et ça l'aide énormément.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound. Silent, and in the naked light I saw
10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. Sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
Quelle merveilleuse chanson, The Sound of Silence, Simon Garfunkel. Il y a le silence aussi de l'omerta, il y a le silence des tabous, de tout ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on ne veut pas dire. Et le jour où la parole se libère, fait du bien, on va mieux, non ?
Oui, là, l'omerta, les tabous, c'est des choses qui sont très proches et qu'on peut, sans rentrer dans le détail, on peut les regrouper sous l'égide de la loi du silence. C'est-à-dire une loi du silence qu'on a tous rencontrée une fois dans notre vie, mais qui peut avoir des échelles et des proportions variables. Et on sait, là, je pense que l'actualité avec Bétaram nous montre à quel point, qu'est-ce que l'omerta, qu'est-ce que sont ces silences qui durent des années et des années. Et je crois qu'en ce moment, on est en train de changer le paradigme de l'écoute, la manière dont on voit les silences, les injonctions au silence. Et progressivement, il y a une mutation de l'écoute par rapport aux victimes de violences sexuelles notamment, qui fait que c'est pas un hasard si les victimes se mettent à parler. C'est parce que maintenant, on les écoute, comme le dispositif de la civis du juge Durand. C'est-à-dire qu'on commence à les écouter en leur disant « je te crois ». Si vous dites à une victime « je te crois », je vous garantis qu'elle vous parle.
C'est Tacita, la déesse, une des deux déesses du silence, qui fait partie de cette armée des ombres, justement, qui n'a eu aucun relais pour raconter son histoire, et Jupiter lui avait arraché la langue.
Exactement. Et Mercure l'avait violée. Et justement, assurer que son forfait ne serait pas répété, puisqu'elle ne pouvait plus parler. Et j'aime bien cette expression, justement, de l'armée des ombres, qui est aussi une expression que Nej Chino emploie pour parler, là, et cette armée des ombres, en ce moment, elle est aussi en train de se lever, parce qu'on trouve aussi des nouvelles manières de s'exprimer. Les collages féminicides, les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que le discours aussi est en train de se multiplier et de fabriquer une nouvelle présence qui oblige certains silences en fait à reculer. Et c'est fondamental en fait.
Stéphanie Baudet, à vous entendre depuis le début de l'émission, on se dit mais cette femme, elle vit vraiment entourée de silence. Quand elle écoute de la musique, elle met un casque sur les oreilles, etc. Et voilà, Vlatipa, qu'à un moment donné, vous allez dans une rave. Et vous allez voir les gens qui font partie de cette rêve partie.
Oui, alors j'y suis pas allée tout à fait volontairement, c'est-à-dire qu'en fait je me suis réveillée matin, réveillée par un bruit. Voilà, pour moi c'était atroce parce que ces vallons dans lesquels j'aime me promener dans le Luberon derrière chez moi, d'un seul coup étaient remplis d'une rumeur guerrière que je comprenais pas et qui s'éloignait vraiment de la petite fête entre amis ou de la boum d'adolescents. Là c'était autre chose et je me suis dit plutôt que de m'énerver, de m'agacer, en restant à la maison, alors que sachant que ça risquait de durer, j'ai pris mon vélo puis je suis montée voir au sommet de la colline
avec eux, dont une femme.
C'est
avec
ça, et c'était vraiment une belle rencontre, parce que je me suis dit, tiens, finalement, plutôt que toujours s'indigner en restant chez soi, mais j'ai trouvé ça intéressant d'aller à la rencontre de cette femme, de comprendre leur motivation, de peut-être aussi faire un peu de prévention. J'avais aussi envie de faire de la prévention par rapport au risque de feu, parce que le massif est très sensible.
Vous faisiez de la prévention en disant, attention, devenir sourd.
Non, mais j'avais très peur, parce que je savais que déjà une rave party avait vraiment anéanti une partie de la garrigue des années auparavant. Ouais, il y avait 5000 personnes et les piétinements, les risques de feu sont très importants, d'autant qu'il y avait beaucoup de mistral. Et je suis tombée sur une jeune femme qui m'a parlé de ces zones un peu où il s'aménageait un temps temporaire de vie ensemble.
Et ça vous a aussi
et ça m'a ouvert sur autre chose. Voilà, c'est ça.
À l'écoute du silence, Stéphanie Baudet, c'est donc le titre du livre que je crois vous avez apprécié aussi, hein, Laurence Joseph.
Beaucoup
c'est publié aux éditions des Équateurs. Et vous, Laurence Joseph, Nos silences, apprendre à les écouter, c'est chez Autrement. Et ce livre, c'est celui que vous voudriez, je vous cite, tendre à ceux qui ne sont pas prêts à lire un témoignage. Merci à toutes les deux.